Bonsoir et bon début de semaine à tous. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC reste extrêmement préoccupante. Le dimanche 9 mars, la cité de Nyabiondo, située dans le territoire de Masisi au nord Kivu, est passée sous le contrôle des rebelles du M23 AFC, soutenus par le Rwanda après d'intenses combats. Cette prise de contrôle s'est produite malgré la résolution 2373 du Conseil de sécurité de l'ONU qui exige le retrait du M23 de Goma, de Bukavu et de toutes les zones qu'ils occupent. Ces affrontements ont une fois de plus provoqué des déplacements massifs des populations civiles. De plus, la prise de Nyabiondo rapproche le M23 AFC de Walikale, un territoire riche en ressources minières. Parallèlement, les processus de médiation de Luanda et de Nairobi semblent être au point mort, sans qu'aucune avancée significative n'ait été enregistrée depuis la désignation des médiateurs. Qu'allait tout faire de cette situation? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 10 mars 2025. Participe au débat Martin Ziakwaou, docteur en relations internationales et professeur d'université. Il est chercheur sur les dynamiques sécuritaires dans l'Est de la RDC, mais aussi auteur de l'ouvrage Accord cadre d'Addis Abeba, portée et incidence sur la RDC. Professeur Ziakwaou, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Aussi avec nous dans ce débat, Bob Kabamba, politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux auditrices de Radio Capi et auditeurs.
Erigen Miviri qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, il est avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle, à Kindu dans la province du Maniema. Vous nous suivez sur la 103.0 et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur DSTV canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Et dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo reste extrêmement préoccupante. Dimanche 9 mars, la cité de Nyabiondo est située dans le territoire de Masisi, dans la province du Nord Kivu, est passée sous le contrôle des rebelles du M23 AFC, soutenus par le Rwanda après d'intenses combats. Cette prise de contrôle s'est produite malgré la résolution 2373 du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée à l'unanimité, représente-t-elle un tournant décisif pour la paix dans l'est de la RDC? Michel Kifinda revient sur les points clés de cette résolution.
Votée le 21 février dernier à l'unanimité des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, cette résolution condamne fermement l'offensive menée par le M23 et les avancées qu'il réalise dans le nord et le sud Kivu avec le soutien de la force de défense rwandaise. Présentée par la France porte-plume sur le dossier de la République démocratique du Congo, la résolution 2773 exige la cessation des hostilités, invite toutes les parties à conclure un cessez-le-feu. Elle appelle au retrait immédiat du M23 de Goma, de Bukavu et de toutes les zones contrôlées, pointant également de doigt le soutien du Rwanda au M23, une première qui envoie un signal fort. La résolution 2773 enjoint le Rwanda de retirer ses troupes du sol congolais. Cette résolution du Conseil de sécurité soutient le processus de Luanda et de Nairobi et recommande la RDC et le Rwanda à reprendre sans condition les pourparlers pour une solution politique et diplomatique à cette crise. Elle prévoit aussi des mesures pour lutter contre l'exploitation illégale des minerais qui financent les groupes armés. Elle renouvelle et renforce à cet effet le mandat de la MONUSCO avec un accent mis sur la protection des civils.
Merci Michel Kifinza. Professeur Ziakwaou, Martin Ziakwaou, je rappelle que vous êtes docteur en relations internationales et professeur d'université. Vous êtes chercheur sur les dynamiques sécuritaires dans l'Est de la RDC et auteur de l'ouvrage Accord cadre d'Addis Abeba, portée et incidence sur la RDC. Le M23 continue à conquérir certaines localités dans la partie est de la RDC. La cité de Niabiondo est tombée dimanche et passée sous le contrôle du M23. AFC soutenu par le Rwanda. Ce matin, nous avons appris que quelques deux autres localités sont passées sous le contrôle de ce même mouvement rebelle. Comment on peut expliquer la chute de ces localités malgré la présence de l'armée congolaise dans ces coins et malgré les sanctions ou la résolution de l'ONU et les sanctions de certaines puissances étrangères?
Je voudrais peut-être faire remarquer dans le jeu que les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ne suffisent pas en elles-mêmes pour déterminer la suite des dynamiques. Et si nous relisons la résolution 2076 du 20 novembre 2012, adopté le jour même de la chute de Goma à l'initiative du M23 en 2012. Au point 10, le Conseil de sécurité avait demandé aux acteurs d'user de leur influence sur le M23 pour l'amener à cesser les hostilités et à ne pas poursuivre les attaques. Cette disposition est très importante, elle ne figure pas dans la résolution 2773 adoptée le 21 février dernier, mais ça atteste le fait que l'ONU ne disposant pas d'outils coercitifs de ses propres soins pour faire appliquer ces résolutions, elle s'appuie sur les États membres, notamment ceux qui sont le plus influents selon le contexte et les réalités sur le terrain, notamment en ce qui concerne la RDC, pour faire avancer le processus selon les termes de ces résolutions. Nous pouvons donc nous permettre de constater que la résolution 2373 a été adoptée à l'unanimité en des termes assez clairs. Mais les dynamiques sur le terrain seraient de nature à attester un déficit d'influence usé par ceux qui ont les moyens, dans le contexte présent, pour faire non seulement respecter les termes de ces résolutions, mais aussi faire avancer le processus. Parce que même au niveau diplomatique, on a l'impression que c'est plutôt l'impasse.
Mais on a vu quand même, professeur Ziakwaou, des pays comme la Belgique, l'Allemagne, le Canada prendre des mesures ou sanctionner le Rwanda à cause de son soutien au M23. Mais malgré cela, le M23 continue à prendre des localités. On a l'impression que toutes ces sanctions ça ne représente pas grand-chose pour eux.
Une chose est de prendre des mesures qu'on appelle sanctions ou, en employant d'autres termes, d'autres vocables, une autre est d'en constater les effets sur le terrain. Les sanctions ont notamment pour fonctionnalité de faire fléchir la volonté d'une des parties en pleine belligérance de renoncer à la volonté de faire la guerre. Et ici, il s'agit en réalité de contraindre le Rwanda de se retirer du territoire congolais, de retirer son soutien au M23 et de s'inscrire ou de se réinscrire sans condition dans le processus diplomatique. Mais la réalité est tout autre. Ça signifie que les mesures annoncées ne produisent pas encore des résultats escomptés. Et donc, si nous revenons sur la logique que je venais de développer tout à l'heure, consistant à affirmer que l'efficacité des résolutions du Conseil de sécurité repose sur l'implication des parties prenantes disposant de leviers pour agir sur les belligérants de manière à faire respecter les dispositions des résolutions, on peut donc constater que ce qui est fait n'est pas encore assez. C'est encourageant, mais sur le terrain, ça ne produit pas encore des résultats escomptés.
Et qu'est-ce qu'il faut pour que ça produise des résultats escomptés? Qu'est-ce qu'il faut?
Non, mais ce qu'il faut, c'est de prendre des mesures qui puissent contraindre le Rwanda à se retirer. En 2013, le président Barack Obama avait passé un coup de fil au président Kagame et l'avait contraint de retirer ses troupes et son soutien au M23 en ayant 72 heures. Et les résultats sur le terrain, c'était presque immédiat. Je pense que c'est cette donne qui nous manque à ce jour. Mais il ne faut pas pour autant se décourager pour constater que nous venons d'un point zéro et sur le terrain diplomatique, il y a des avancées, même si ça ne serait pas en phase avec le terrain militaire, mais il y a aussi des questionnements sur la reconsidération de la stratégie au niveau gouvernemental pour faire avancer le processus.
Alors, la prise de Niamey rapproche le M23C de Walikale. Walikale qui est un territoire riche en ressources minières. Au-delà de Niamey, quelle est la stratégie, quelle pourrait être la stratégie globale du M23, professeur? Est-ce que c'est chercher à contrôler les axes stratégiques des ressources minières ou à exercer une pression politique sur le gouvernement congolais?
Je pense que le M23... Plus globalement, l'alliance fleuve Congo tendrait vers une certaine logique de congolisation de la crise sécuritaire. Et si vous parcourez les productions journalistiques, vous vous rendrez compte que, en ce qui concerne notamment les derniers combats, on parle de moins en moins de l'implication de l'armée rwandaise. En même temps, il y a une déstructuration de la stratégie gouvernementale autour notamment des Wazalendo, ne constituant plus un corps et dont certains éléments se sont ralliés à l'AFC, et cela tendrait à une nouvelle logique de belligérants sur le terrain. Et vous comprendrez facilement que s'il y a des villages qui sont contrôlés par X mouvement, hier Wazalendo, aujourd'hui rallié à l'AFC, sans combat, ces villages passeraient d'un camp à un autre. Donc il y a cette logique, mais il y a également des dynamiques sur le terrain, parce que il est important que le gouvernement puisse renforcer les FRDC en considérant notamment la déstructuration de la stratégie de départ autour notamment de mercenaires, instructeurs, pour employer un terme qui est officiellement d'usage, autour des forces auxiliaires, notamment l'armée les troupes burundaises. Il y a, je ne veux pas dire vacuité stratégique, non, ce n'est peut-être pas le cas, mais il y a une réalité qui tendrait à penser qu'on ne s'est pas encore très vite adapté à la nouvelle donne sur le terrain. Je pense qu'un travail de fond est en cours, en complément au travail au volet diplomatique, quelles que soient les difficultés que connaissent nos services de sécurité et de défense qui doivent être réformés de fond en comble, mais nous pensons qu'il est encore possible de repenser la stratégie et doter nos services de sécurité et de défense des moyens qui s'imposent sur le terrain pour espérer que le résultat, aussi bien au niveau diplomatique qu'au niveau militaire, puisse nous rapprocher de ce qui nous mettrait dans un certain confort.
Merci, professeur. On vous garde encore dans cette émission. Merci à Tito Joseph Kiabomba qui nous suit depuis Kananga, au Kasaï Central. Pascal Pochimbili, vous êtes à Bukavu. Vous venez vous poser la question de savoir quid de la riposte rigoureuse. Merci à Larissa Wedraogo qui nous suit depuis Ouagadougou, au Burkina Faso. Professeur Bob Kiabomba, professeur et politologue, vous êtes politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. Professeur, malgré la résolution 2773 qui exige la cessation des hostilités, le M23 poursuit sa conquête. Dimanche, c'était la localité de Niabiondo qui est passée sous le contrôle de ce mouvement rebelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce matin, nous avons appris qu'il y a aussi deux autres localités qui sont passées sous le contrôle du M23. Comment on peut expliquer cette situation, professeur Bob Kiabomba, malgré les appels au cessez-le-feu? Les affrontements ou les combats se poursuivent sur les terrains.
Merci pour la question. Donc, il faut bien se rendre compte que les résolutions des Nations Unies n'arrivent jamais à mettre fin à des conflits. Et parce qu'il y a toujours un décalage entre la situation, le contexte, et au moment où la décision est prise, au niveau du Conseil de sécurité. Ça veut dire que la décision qui est prise, elle est prise et qu'il ne tient plus compte de ce qu'il y a comme dynamique sur le terrain. Il y a toujours un décalage entre les deux situations. Et donc, cette décision du Conseil de sécurité, et donc je suis quand même assez étonné de voir que vous ne faites pas attention, mais vous ne lisez pas correctement cette résolution. Cette résolution aussi condamne l'appui de la RDC au FDLR, du Rwanda, et oblige même le gouvernement congolais à stopper son appui et la collaboration avec ces FDLR. Ce qui m'amène à dire que si sur le terrain, la situation continue à avancer. Ça veut dire que pour les parties prenantes, notamment AFC, c'est-à-dire que les revendications qui sont à la base de leur mouvement rebelle ne sont pas prises en considération, non seulement par la communauté internationale, mais aussi par le gouvernement congolais. Qu'en lisant les différents communiqués de l'AFC, et on se rend bien compte que l'AFC met toujours sur la table toute une série de points, et ces points ne sont pas pris en considération. Et donc, avancer sur le terrain, c'est une façon pour l'AFC de continuer à faire la pression, non seulement sur le gouvernement congolais, mais aussi sur la communauté internationale pour prendre en considération ces revendications. Alors, par ailleurs aussi, sur la question des ressources naturelles qui sont pillées, vous vous rendez bien compte que cette résolution met en lien de manière très claire en disant oui, il y a toutes les parties prenantes, il y a tous les groupes armés qui profitent de l'exploitation des ressources naturelles, que l'on doit revenir dans le cadre du processus de CIGL. Donc, il revient au gouvernement congolais de pouvoir prendre des mesures pour que ces systèmes d'exploitation respectent bien la réglementation non seulement congolaise, mais aussi au niveau du TRIRGL. Et donc, clairement, oui, il y a une condamnation de l'agression, il y a une responsabilité claire qui est définie dans cette résolution et qui insiste beaucoup sur le fait que c'est le gouvernement congolais qui est d'abord responsable de l'intégrité territoriale du Congo, mais aussi de la protection des populations civiles. Et cette résolution insiste sur ce fait-là. Alors, si le gouvernement congolais n'arrive pas à résoudre ces problèmes, ce n'est pas nécessairement au niveau de la communauté internationale pour pouvoir arriver à impulser. Et cette communauté internationale fait, à travers cette résolution, rappeler les dispositions, mais aussi rappelle aussi les responsabilités des uns et des autres. Cette résolution insiste aussi sur les deux processus, Nairobi et Luanda. Et vous devez savoir que le processus n'est pas mort, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je vous rappelle que la délégation de l'ECC et de la CINCO est en train de faire le tour de tous les pays de la SADC et de East African Community.
On n'a pas dit que le processus était mort. On a dit que le processus semble être au point mort, professeur Bobé Kiabamba.
Le processus ne semble pas être au point mort, puisque l'ECC et la CINCO est en train de travailler justement pour arriver justement à arriver le processus qu'ils sont en train de faire pour que ça soit adoubé par la SADC East African Community et que les différentes questions qui sont abordées dans les cadres des dialogues entre les différents pays, mais aussi au niveau congolais, se concrétisent à travers cette initiative. Et dans les prochains jours, il y aura un sommet des chefs d'État qui va valider effectivement cette proposition de l'ECC et de la CINCO pour qu'on redynamise effectivement ces processus dans le cadre des accords qui ont été conclus lors du dernier sommet. Et s'il n'y a pas encore eu de sommet, c'est tout simplement on attend les résultats, des conclusions, des consultations que ces deux organisations sont en train de faire au niveau régional. Ils viennent de terminer la plupart des pays de la région. Ils ont terminé Luanda. Ils vont aller à Harare. Ils ont été à Nairobi. Ils ont été à Kigali, à Kampala, en Afrique du Sud, pour pouvoir arriver vers les différents pays qui pèsent dans le cadre de cette dynamique, non seulement de Luanda, mais aussi de Nairobi.
Alors, si je vous comprends bien, professeur Bob Kiabamba, l'EAC et la SADC attendent les résolutions ou les conclusions de la CINCO de l'EAC avant de relancer les processus.
Tout à fait. C'est parce que vous souvenez que au moment de la décision du sommet, c'est qu'ils avaient insisté sur la question d'abord interne au Congo, avec la participation de toutes les forces politiques et aussi des groupes armés, mais aussi de pouvoir travailler sur le niveau régional pour harmoniser les relations entre le Rwanda et le Congo. Et donc, le travail que fait l'ECC et la CINCO n'est qu'un maillon de tout ce processus qui est en cours.
Mais c'est une initiative privée, c'est deux confessions religieuses d'un pays qui essaie aussi de faire des propositions pour mettre fin à la crise dans le pays. Le lien entre cette initiative de deux confessions religieuses et ces organisations régionales.
En fait, c'est une initiative privée, mais qui va certainement être validée lors du prochain sommet qui va avoir lieu entre les deux organisations. Et tout ce travail qui est en train de faire, quand vous lisez les différents communiqués qui sont publiés par la CINCO et l'ECC, au sortir de leurs différentes consultations, et cette question est clairement mise sur la table, et beaucoup de pays valident et appuient cette initiative pour qu'elle rentre bien dans cette dynamique qui est une dynamique de deux organisations qui est appuyée par la communauté internationale, mais aussi par les Nations Unies et aussi d'autres pays européens et aussi d'autres pays africains. Et donc clairement, cette initiative sera certainement adoubée par ces deux organisations pour que ces deux organisations deviennent ce qu'on appelle la garantie des bonnes exécutions.
Merci, professeur Rugel Mivivi. Est-ce que vous êtes en ligne? Tout à l'heure, on n'arrivait pas à vous joindre. On me signale que vous êtes en ligne. Vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC, en sigle. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Alors, comment vous évaluez l'efficacité des sanctions imposées par l'ONU contre, ou de la résolution 2773 de l'ONU sur la crise, le conflit en RDC, dans la partie sud de la RDC?
Déjà, je veux me lier à ce qui a été déjà dit ici, parce que c'est clair qu'on n'a pas vu des changements sur le terrain. Et c'est dommage parce que l'idée de ces sanctions, c'était que l'on puisse donner une nouvelle vie à différents processus et à pousser les acteurs qui sont sur le terrain à respecter ces résolutions. Mais comme on le sait tous ici, c'est que les Nations Unies ont toujours eu des difficultés à faire réaliser leurs résolutions qui, dans beaucoup de cas, deviennent que des vœux. Mais en même temps, c'est aux acteurs, notamment les acteurs intéressés comme la RDC, qui doivent se saisir de ces résolutions et pour les utiliser, en fait, dans un processus politique. Donc, pour moi, souvent de ce qu'on voit sur le terrain, il est clair qu'il n'y a pas une solution militaire qui puisse marcher, en tout cas à court terme. À court terme, il n'y a pas de solution militaire qui soit favorable au gouvernement congolais. Mais il y a un processus politique dans lequel le gouvernement congolais a des arguments qui puissent faire valoir et qui peuvent faire en sorte que la situation puisse changer sur le terrain. Notamment, en fait, qu'il soit clair que c'est la RDC qui est agressée, qu'il soit clair que il s'agit d'une rébellion et d'un pays étranger qui occupe illégalement une partie du territoire congolais. Voilà. Mais à côté de ça, on doit aussi reconnaître en fait qu'au Congo, il y a des gens qui ont des revendications légitimes, qui sont soit des partis de l'opposition, soit de l'SID, soit je ne sais pas de quel autre parti politique, et qui demandent à ce que le pays puisse s'ouvrir, qui demandent à ce que le pays puisse créer plutôt l'unité nationale, qui puisse permettre à ce qu'on soit ensemble pour défendre la souveraineté de l'État. Mais ça, si en même temps que on reçoit un coup de pouce venant notamment de l'international, à l'interne, les gens ont difficile à se mettre ensemble et à entrevoir la fenêtre d'opportunité qui est par exemple cette initiative de l'ANCENCO. Ça sera difficile en fait de tirer profit de toutes ces résolutions, mais aussi de tous ces coups de pouce qui viennent de l'étranger. Donc moi, je pense que la réflexion doit se passer beaucoup plus à l'interne, de voir qu'est-ce qui peut être fait à l'interne et comment on fait pour capitaliser un processus politique à l'interne. Et j'ai comme l'impression, comme le professeur Bob Bamba l'expliquait d'ailleurs, que le processus initié par les religieux semble redonner encore de la vigueur aux deux processus, le processus de Nairobi et de Luanda, qui bien sûr avaient donné leurs limites, notamment parce que on voyait clairement que c'était deux organisations qui sont étrangères à la RDC bien sûr et qui ont aussi des intérêts qui parfois peuvent être antagonistes avec des intérêts du Congo. Mais malheureusement, même une initiative qui vient de l'interne, elle est aussi soupçonnée.
Justement, c'est ce que j'allais dire. Cette initiative des évêques divise la classe politique.
Oui, mais elle divise la classe politique sur quelle base? Sur des intérêts politiques. il y a pas vraiment sur le fond, mais sur les intérêts politiques. C'est parce que les gens pensent en tout cas que cette initiative vient donner du pouvoir à tel, vient donner un peu de la force à tel contre tel. Il ne s'agit pas de... Pour les politiciens congolais, malheureusement, il ne s'agit pas de sauver le Congo, mais c'est de soit on veut sauver un régime, soit les autres pensent que c'est l'opportunité de faire sombrer un régime, en fait. Pendant que on devrait prendre de la hauteur et aller au-delà et réfléchir plutôt sauver le Congo. Et je pense que c'est de cela qu'il s'agit dans cette initiative. Mais bon, tant que les intérêts des politiciens vont prendre de la... Le dessus sur l'intérêt général, on aura toujours des difficultés. Pourtant, clairement, on voit clairement, et il faut juste être dupe pour penser qu'il y a une solution militaire à court terme, on voit clairement que pour l'instant, et d'ailleurs, la RDC a tout intérêt à initier un processus politique qui vient de l'interne, qui a une légitimité interne et qui permette en fait de se saisir de cette opportunité où la communauté internationale donne quand même du crédit aux revendications de la RDC pour qu'elle en puisse peser. C'est qu'on ne peut pas avoir, parce qu'à chaque fois ici à la RDC, on parle de la question de il faut négocier en position de force. Mais la force, ce n'est pas seulement la force militaire. Oui, on peut dire que la RDC va aller dans des pourparlers en position de faiblesse, peut-être militairement, mais en position de force, peut-être politiquement et en termes de droit international, parce que on a vraiment on a le soutien de tous les acteurs internationaux qui pensent clairement qu'il s'agit de défendre le droit international et sous aucune forme on ne devrait pas soutenir un acteur qui est en train de violer le droit international. Et ça, c'est déjà un grand message pour le gouvernement congolais. Mais malheureusement, il y a encore des gens qui continuent à insister sur une voie militaire qui a montré ses limites et qui, peu importe les moyens qu'on y mettrait aujourd'hui, ne fera qu'empirer la situation. Étant donné, on a vu la désorganisation sur le terrain, on a vu tous les développements récents dans des groupes qui soutenaient notamment la coalition gouvernementale. Donc voilà, je pense qu'il faut se rendre compte qu'il y a de nouvelles donnes, il y a de nouvelles réalités et qu'il faut faire avec, mais aussi faire valoir le point de vue de la RDC, qui est celui de défendre son intégrité territoriale, celui de défendre sa population, celui de la protection des civils. Et ça devait être la priorité de tout le monde. Et non pas le débat, de bas étage qu'on voit notamment à Kinshasa, où voilà, quand on parle d'un processus politique, tout le monde pense que c'est tel qui vient remplacer tel. Et malheureusement, bien sûr, il y a certains acteurs de l'opposition qui pensent que c'est leur tour. C'est très dommage, en fait, parce que au-delà de la question de pouvoir, les gens ne voient pas qu'il s'agit, en fait, de la RDC, qu'il s'agit de nos frères et de nos sœurs qui sont en train de souffrir à l'est du pays, et que c'est l'occasion pour une fois d'impulser un processus de paix qui va vider toutes ces questions pour de bon et faire en sorte que cette fois-ci, on reparte sur de bonnes bases.
Merci, Maître Rigen Mubiri. Vous êtes très, très nombreux à nous suivre partout en RDC. On va vous donner l'occasion de poser vos questions ou de réagir au thème de ce soir. On va se rendre à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, pour écouter cet auditeur qui nous appelle.
C'est Mutambala Nyange, bienvenue depuis la ville de Lubumbashi. Face à cette crise, la RDC a besoin d'une réponse militaire plus efficace, d'un soutien international réel et d'une véritable volonté politique pour établir la paix. Quant à la réponse militaire efficace, les FRDC doivent être mieux équipés et organisés pour résister aux attaques et sécuriser les populations. Quant au soutien international réel, les M23 bénéficient d'appui extérieur la RDC doit obtenir une aide concrète, je cite, logistique, diplomatique et militaire, fin de citation, pour équilibrer les rapports de force. Quant à la volonté politique forte, il faut une coordination nationale pour éviter les divisions, lutter contre les complicités internes et engager des négociations crédibles pour une solution durable. Sans ces trois éléments, la crise risque de s'aggraver et de menacer davantage la souveraineté et la stabilité du pays.
Professeur Zakwaou, comment vous réagissez aux propositions, hein? Quelques solutions envisageables que propose cet auditeur pour rétablir la paix et la sécurité dans la partie est de la RDC?
Je remercie le compatriote. C'est très important de souligner la nécessité de coordonner les initiatives nationales sur la problématique sécuritaire dans l'Est. Et il y a un déficit à ce niveau. Nous avons le BDDRCS, il y a le processus de Nairobi, le processus de Luanda, il y a le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, il y a eu la force de l'East Africa Community, il y a eu la force de la SAMIDIRC, il y a la MONUSCO, il y a plusieurs initiatives, mais à ma connaissance, il n'y a pas un cadre de coordination. Et par rapport à la donne actuelle, liée notamment à la déstructuration de la stratégie d'hier ayant accusé des limites, c'est l'occasion de rappeler que Machiavel faisait déjà remarquer que c'est stratégiquement très imprudent de s'appuyer sur les mercenaires et les forces d'hier sans préalablement construire une armée forte. Alors, qu'aujourd'hui on parle de solutions diplomatiques, oui, mais ça ne remet pas en cause la nécessité pour la RDC de se restructurer à l'interne, d'engager de réformes, mais aussi au niveau conjoncturel sur ce qui devrait être fait aujourd'hui, de le faire pour répondre à ce qui relève de sa responsabilité première, à savoir protéger et défendre l'intégrité de son territoire. On ne peut pas dire, oui, la solution n'est pas militaire, certes, mais la solution n'est pas que diplomatique. Étant donné que la force de la diplomatie dépend de du rapport de force militaire sur le terrain. Donc, je pense pour cette question, il est important pour la RDC de coordonner toutes les initiatives de se remettre en cause par rapport aux leçons à tirer de la chute de Goma, Bukavu, repenser sa stratégie militaire, et c'est très important. Mais je voudrais aller peut-être au-delà très rapidement, en faisant remarquer qu'il y a déjà deux processus. Mais je pense, madame, que cette discussion est autour de la résolution 2773. Mmh. Et les deux processus, c'est Luanda et Nairobi. Force est de constater qu'aujourd'hui, le gouvernement parle de l'alignement de ces deux processus. Contrairement au sommet conjoint East Africa Community SADC, ayant parlé de la fusion de ces deux processus. Et c'est important également de souligner que dans la résolution 2773, en dépit du principe de subsidiarité des organisations intergouvernementales, le Conseil de sécurité ne s'est pas totalement aligné sur la piste proposée, je dirais même la décision prise par l'East Africa Community et la SADC concernant la fusion des deux processus. Parce que, à l'honnêteté, nous devons reconnaître qu'il y a eu des avancées en ce qui concerne le processus de Luanda. Il y a lieu de reconnaître l'impasse du processus de Nairobi. Fusionner les deux processus, ça signifie en créer un nouveau. Que les évêques de la CENCO, de l'ECC, puissent proposer, mettre sur le tapis une proposition qui concourrait à la paix, non, il n'y a pas de problème. Mais ça ne remet pas en cause l'existence de ce qui est déjà sur le tapis. Et je voudrais peut-être aussi faire remarquer que la proposition de la CINCO et de l'EAC ne s'inscrit pas tout à fait dans la logique de ces deux processus. Parce que la CINCO et l'ECC préconisent la paix et le bien-vivre, non seulement en RDC, mais aussi dans la région. C'est-à-dire on élargirait l'escarcelle au-delà du Rwanda pour intégrer les autres États. Donc, il n'y a pas de contradiction. La problématique ici, c'est simplement de dire, au niveau diplomatique, il y a deux processus, c'est l'impasse, il faudrait y donner de la, y redonner de la vitalité. Mais étant donné que sur le plan diplomatique, c'est de l'impasse, mais madame, vous l'avez fait remarquer, c'est l'objet de cette émission, c'est de constater la reprise des hostilités, avec les conséquences malheureusement. Donc je pense que faudrait peut-être que nous puissions garder à l'esprit la thématique et les logiques de terrain pour ne pas donner l'impression que ce que la CINCO et l'ECC opposent, c'est ce qui viendrait donner de la vitalité au processus diplomatique.
Merci, professeur Ziakouarou. On va aller à Lubumbashi cette fois-ci. Plutôt à Goma. À Goma, c'est pas l'auditeur de Goma, c'est Bukavu qui est en ligne. Voilà, on va prendre l'auditeur de Bukavu qui est en ligne.
Je suis Jackson, je vous appelle depuis Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. La prise de Nyabiondo par les Rwanda et ses supplétifs du M23 prouve à suffisance que le front des négociations ne tiendra jamais. Je ne pense pas que la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant les retraits du M23 de Goma et Bukavu peut être respectée. Pour moi, cette résolution devrait avoir en son sein des contraintes pour faire fléchir ce mouvement qui a bouché les oreilles. Si réellement les Nations Unies ainsi que l'ensemble de la communauté internationale veulent nous aider, ils doivent procéder par des sanctions ciblées à l'encontre de certaines autorités rwandaises et certaines figures du M23. Dans les cas contraires, c'est dit Diazepa, pire et simple.
Professeur Bob Kabamba.
Oui, je répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si les hostilités reprennent, continuent sur le terrain, ça veut dire que du côté de l'AFC et M23, on ne prend pas en compte les revendications. Donc, si on ne prend pas en compte leurs revendications, donc ils doivent continuer l'offensive jusqu'à ce que l'on comprenne quelles où sont leurs revendications. C'est très fondamental. Et ça, c'est un des nœuds du problème que nous avons pour pouvoir bien comprendre comment on peut arriver à résoudre ce conflit. Oui, il y a des revendications. Je ne dis pas que c'est des revendications qui sont légitimes ou pas, non. C'est parce que le fait est là, il y a des revendications. Et ces revendications on doit résoudre ces revendications, répondre à ces revendications. Si ce n'est pas le cas, si je suis en position de force comme l'AFC est dans le temps actuel, je vais continuer à avancer sur le terrain jusqu'à ce que l'on comprenne mes revendications. Ça, c'est un fait. Donc, oui, il y a bien des tombées. Oui, il y a que d'autres villes qui vont tomber. Et ça veut dire que à ce moment-là, la tension ne sera plus non seulement du côté de l'AFC M23 appuyé par le Rwanda, mais ça sera aussi du côté congolais pour pouvoir prendre en considération ces revendications. L'autre question liée aux sanctions, mais les sanctions sont déjà prises. On a pris des sanctions au niveau du Conseil de sécurité, au niveau de l'Union européenne, où il y a des sanctions qui sont déjà prises. Et des pays qui sont en relation bilatérale avec le Rwanda, certains pays ont pris déjà des sanctions. Mais dans l'histoire des relations internationales, surtout dans les pays en conflit, on a déjà fait plusieurs évaluations pour dire que les sanctions ne vont jamais amener à ce que les États reviennent en arrière par rapport à leurs revendications. Je ne peux pas citer ici toute la liste de tous les conflits qu'il y a dans le monde avec les différentes sanctions qui ont été prises. Je prends par exemple le Soudan, où on a des sanctions qui sont prises, mais il n'y a pas de fin d'hostilité était sur le terrain. Et je peux en citer plusieurs exemples comme ça. Donc, ça veut dire, grosso modo, oui, ça devient une espèce d'endommagement au niveau de la communauté internationale pour, en disant, oui, j'ai pris des sanctions, alors j'ai répondu aux revendications et ça s'arrête là. Et les pays belligérants, les pays patriotes connaissent aussi cette donnée. Ça veut dire que s'il y a des sanctions, moi, j'ai aussi, je dois réagir par rapport à ces sanctions. Pour arriver à les faire lever, je dois non pas arrêter, mais avancer. Au fur et à mesure que j'avance, j'ai des atouts de mon côté, et de mon côté, par rapport aux revendications, je vais rajouter aussi la levée des sanctions. Et donc, clairement, on a déjà vu ça plusieurs fois. Donc, c'est contre-productif, et on ne peut pas se réjouir qu'il y a eu des sanctions et que ces sanctions vont amener des résultats sur le terrain.
Et la solution serait quoi, professeur Bob Kebamba?
Il y a une dynamique congolaise qu'il faut mettre en place. Et l'ECC et la FINCO, par rapport à leur initiative, parce que c'est la seule initiative que nous avons aujourd'hui, avec un contenu qui dit, oui, il y a une dynamique congolaise, et puis il y a une dynamique régionale. Nous commençons par la dynamique congolaise, et puis après nous avons entamé la dynamique régionale. Et cela va être la base de pouvoir construire ce qu'eux-mêmes, ils appellent dans leur plan de cohésion nationale, le plan de cohésion d'impact, pacte de cohésion nationale. C'est ça le contenu qu'ils donnent, non seulement aux Congolais, mais aussi aux pays de la région.
Et donc le gouvernement aimerait soutenir cette initiative des évêques?
De mon point de vue, oui, puisqu'il n'y a pas d'autre alternative. Et même la résolution du Conseil de sécurité insiste bien qu'il n'y a pas de solution militaire, il n'y a que l'option politique. Et cette option politique, ça veut dire qu'il y a une dimension congolaise, et puis il y a une dynamique régionale. Si on zappe la dynamique congolaise en s'axant uniquement sur la dynamique régionale, le conflit ne sera pas résolu.
Ah. Voilà. Alors, on va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle. Il est à Kinshasa. On va l'écouter.
Depuis Kinshasa, Neiker Tokolo, nous l'avions prévenu. Tant que nous ne sommes pas capables de nous prendre en charge, la récupération par le rebelle de certaines localités de notre patrie est irréversible. Le gouvernement congolais ne devrait pas s'arrêter au contact diplomatique avec la communauté internationale qui, à mon avis, est une grosse hypocrite. Et ne perdons pas de vue, quelles que soient les actions qu'on peut infliger au Rwanda, la situation sur le terrain ne changera pas du tout. La meilleure alternative à prendre, c'est de repousser par moment la violence par violence. C'est-à-dire, le gouvernement congolais doit déclarer la guerre contre l'ennemi en fait de garantir la sécurité de son peuple et de son territoire. Si ce gouvernement pense qu'il ne dispose pas des ressources humaines, voire matériel militairement qualifié pour faire face à l'agresseur, notamment le Rwanda et ses supplétifs M23 AFC, c'est alors important de passer aux négociations directes avec ce rebelle pour y mettre fin immédiatement.
Alors, Rigel Mibiri, votre réaction,
hein? Déjà, je pense qu'il faut rappeler que le Congo est dans son droit et continuer en fait à défendre l'intégrité territoriale. Et donc personne n'a dit qu'il faille justement ne pas combattre. Non, le Congo est dans son droit de le faire, mais on doit juste tenir compte des réalités sur le terrain. En fait, on est en train de voir que cela n'est pas en train de donner de résultats comme beaucoup de Congolais l'auraient souhaité en fait. Et donc, si jamais on se met sur cette même trajectoire et qu'on insiste que sur la voie militaire, alors là, on va continuer à perdre du territoire et du territoire, et ça sera très difficile d'avoir de pourparlers, parce que en fait, la liste en fait de choses à discuter sera en train de s'allonger. Et donc, il faudra déjà directement reconnaître des états de fait sur les territoires et ça sera plus difficile. Vous imaginez. Donc, Je pense qu'on devrait prioriser pour l'instant un processus politique. Ça ne signifie pas qu'on met tout en pause, notamment sur le plan militaire, mais initier et commencer un processus politique. Et déjà, comme je le disais encore une fois, il y a déjà une fenêtre d'opportunité avec l'initiative de la CENCO. Je pense que c'est un processus qui est perfectible. Déjà, on voit clairement qu'il y a nécessité à ce que ce processus puisse exactement parler à tous les acteurs, mais aussi faire du feedback sur les différentes discussions qui sont en train d'avoir avec différents acteurs. Parce que je pense qu'une des choses qu'on peut reprocher aux religieux, c'est le fait qu'après chaque rencontre qu'ils ont eue, ils n'ont pas su communiquer les contenus ou quoi. Bien sûr, ils ne vont pas donner tous les détails, étant donné qu'on a besoin de rassurer tous les acteurs pour que ça puisse continuer, mais quand même communiquer et dire des choses de manière claire pour que les gens puissent avoir moins de soupçons par rapport à ce processus. Parce que moins il y a de l'information, plus il y a des soupçons. Donc ça, à faire, mais je pense qu'on doit se rassurer et se focaliser sur ce qui semble marcher. Et pour l'instant, j'ai comme l'impression que ce qui marche du côté congolais, c'est le côté diplomatique où de plus en plus il y a des acteurs qui disent clairement qu'ils se rangent du côté du respect du droit international et mm-hmm. ça c'est très important.
Merci.
Et ça c'est un argument de taille pour la RDC.
Professeur Ziakwaou, en guise de conclusion, est-ce que vous pensez que en relançant Luanda et Nairobi, la guerre prendra fin?
Non, madame, ce serait trop simpliste. Non. Moi, je me projette sur une paix, non pas éphémère, mais une paix durable. Il est donc important pour le gouvernement de réexaminer la situation à deux niveaux. D'abord, au niveau opérationnel, parce que c'est conjoncturel et c'est très urgent, pour prendre des mesures qui s'imposent. Parce que jusque-là, il n'y a pas eu de sanctions. Là, c'est comme si de rien n'était. Mais je pense qu'il y a un travail qui est fait à ce niveau. Concomitamment, ça me paraît penser la paix à long terme. Parce que jusqu'à ce jour, il n'y a pas de programme de pacification et de stabilisation de l'Est de la RDC. Et ceci devrait passer notamment au travers des réformes structurelles.
On a du mal à vous suivre, professeur.
Allô, madame. Allô.
Oui, ça va mieux maintenant. Allô.
Je disais que ma proposition, c'est à deux niveaux. Mm-hmm. Le premier niveau, c'est au niveau conjoncturel. Il faudrait que le gouvernement puisse examiner la situation et tirer les conséquences de la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire et prendre des mesures qui s'imposent de manière assez urgente. Et parallèlement, il faudrait que le problème soit étudié au niveau structurel, en se projetant dans un futur pour une paix durable. Et ceci implique notamment de disposer d'un programme de paix et de stabilité de l'Est de la RDC. À ma connaissance, ça n'existe pas. Et ceci devrait impliquer notamment des réformes structurelles à mener de manière profonde à tous les niveaux, en priorité dans le secteur de défense et de sécurité. Et ça, c'est vraiment urgent. Donc, nous travaillons sur le conjoncturel, et en même temps, on s'inscrit sur le structurel.
Merci, professeur Ziakwaou. Professeur Bob Kabamba, votre conclusion très rapidement aussi.
Il y a une piste qui a été donnée par les religieux. Je pense que dans l'état actuel des choses, c'est la seule voie qui compte. Et si le gouvernement congolais ne s'inscrit pas dans cette dynamique, donc la guerre va continuer et ce sont les populations civiles qui continueront à être toujours les premières victimes, comme on est en train de le voir. Donc il est urgent pour le gouvernement congolais de pouvoir s'imprégner et s'approprier ce processus et pour que, véritablement, que ce soit un moyen de résoudre ce conflit.
Regan Miviri, vous avez la parole.
Oui, juste dire que voilà, l'État congolais doit prendre au sérieux en fait ce problème et aller au-delà de, des discussions politiques, qu'on comprenne en fait qu'il s'agit de la survie de toute une nation et non pas d'un régime ou des partis politiques, parce que la discussion doit aller au-delà de, des intérêts des individus. Que ce soit des intérêts de l'opposition ou de la majorité, et c'est là qu'on va commencer à penser État congolais et prendre en compte et profiter de toutes les opportunités politiques qui se présentent, notamment avec l'initiative de, des religieux, mais aussi avec toutes les prises de position qui ont réaffirmé encore une fois la primauté du droit international. Le Congo doit continuer à utiliser ces arguments-là pour un processus politique qui puisse nous amener au moins d'abord sur la voie de la paix et ensuite sur la voie de la reconstruction de l'État, qui Merci. Prendra bien sûr le temps que ça prendra.
Merci Rigane Miviri, dialogue en congolais. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver les temps forts de cette émission sur les comptes officiels Instagram et TikTok de Radio Okapi. N'hésitez pas d'aimer, de partager, mais surtout de vous abonner. Guimatier, Freddy Bikumbie, Bertin Kassiama m'ont aidé à préparer ce magazine. La mise en onde était assurée par Billy Bétou et Pierre Diassinois. Derrière les caméras, Jonathan Folani, Clément Chimanga et Hervé Vauquia. Coordination et présentation Kelly Kouté sous la supervision de Martin Sebou-Jangoué. Restez branchés sur la fréquence de la paix.